Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, nous nous concentrons sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, nous allons parler du thème « Jésus et la prière ». Je suis content d'accueillir Jean-Marc de nouveau sur le plateau. Durant deux émissions, nous avons parlé de l'exemple de Jésus à propos de la prière. Et la dernière fois, nous avons fait un bref mais instructif résumé sur ce que l'on appelle la prière du Seigneur. Jésus a donné cette prière à ses disciples pour qu'elle leur serve de modèle alors qu'il lui avait demandé « Enseigne-nous à prier ».
Il est vrai que Jésus leur a proposé un modèle à suivre pour les aider dans leur prière. Toutefois, son enseignement à ce sujet ne s'est pas arrêté là. Écoutons à présent les exhortations qui ont suivi cette prière.
Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui répondent « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?
Jésus appuie souvent son enseignement d'images et de paraboles tirées d'événements de la vie quotidienne, ce qui est le cas ici. Mais quel message voulait-il faire passer ?
La leçon la plus importante est celle-ci. Nous pouvons prier Dieu entièrement confiante en lui, avec la conviction qu'il nous entend et qu'il nous répondra.
Dans la première parabole racontée, nous découvrons un voisin dérangé de nuit. Il n'a guère envie de répondre à la demande de son ami, mais il le fait tout de même, à contre-cœur, car il a trop honte de refuser. Jésus veut-il dire que Dieu est comme ce voisin? N'aimons pas être dérangés?
Non, non, pas du tout. Jésus se sert d'un tout autre raisonnement, bien compris à l'époque, mais qui aujourd'hui pourrait nous échapper. Voilà ce que Jésus explique. Si dans le pire des contextes, celui par exemple d'avoir affaire à un voisin hargneux, puisque dérangé pendant son sommeil, vous avez bon espoir d'obtenir ce que vous lui demandez, à plus forte raison, lorsque vous vous approchez de Dieu, vous pouvez être absolument confiant d'être entendu.
Merci d'avoir éclairci ce point, mais pouvez-vous nous préciser comment s'approcher de Dieu?
Tout simplement par la prière. Quand nous prions le Dieu de la Bible, nous ne nous adressons pas à un voisin peu sympathique, mais plutôt à celui qui est compatissant et miséricordieux, à celui qui peut tout, à celui qui est, comme nous l'avons appris, un Père céleste, pour tout véritable chrétien.
Donc nous pouvons avoir confiance que Dieu nous entend, qu'il voit et qu'il nous répondra. Mais Jean-Marc, j'ai des questions à vous poser.
Quelles sont-elles?
Tout d'abord, puisque nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, cela signifie-t-il que nous pouvons lui demander n'importe quoi et nous attendre à tout recevoir de lui systématiquement? Je pense que tout chrétien a eu l'occasion de constater que l'Éternel ne répond pas forcément à toutes nos prières, du moins pas comme nous l'aurions souhaité. Ce fait n'est-il pas en contradiction avec cette première parabole ? Nous exhortons à nous approcher de Dieu dans la prière, confiant qu'il nous écoutera.
C'est justement pour cette raison que Jésus évoque l'image des pères et des enfants à la fin du texte lu. Yann, vous avez des enfants ?
C'est vrai, j'en ai deux.
Permettez-moi alors de vous poser quelques questions. Vos enfants, vous font-ils confiance ?
Oui, ils m'aiment et ils ont confiance en moi.
Alors Yann, toutes les fois que l'un de vos enfants vous demande de lui donner quelque chose, le lui accordez-vous systématiquement ?
Non, pas forcément. Je peux avoir de bonnes raisons de ne pas tout lui accorder. Surtout si, par exemple, je pense que cela n'est pas dans son intérêt.
Et pourtant, vos enfants continuent à vous faire confiance.
Oui, ils peuvent parfois être déçus ou contrariés quand je leur dis non. Mais ils ne cessent pas pour autant de me faire confiance. Ils savent que je les aime et que je désire leur bien.
Alors il en est exactement ainsi quant à notre relation avec Dieu. Jésus parle d'un enfant demandant un scorpion ou un serpent à son père. Or, aucun père sensé n'en donnera un à ses enfants, même si ces derniers insistaient. Quelques commentateurs pensent que ce scorpion ou serpent, évoqué par Jésus, représente tout ce qui est inutile, impur ou dangereux. Il est certain que si nous demandons à Dieu ce qui est inutile, dangereux ou impur, nous pouvons être certains de ne pas l'obtenir dans nos prières. Si ces choses ne sont pas dans notre intérêt, surtout notre intérêt spirituel, alors il ne faut pas s'attendre à les recevoir dans nos prières.
En fait, nous devons faire confiance en Dieu, car Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu sait mieux que quiconque tout ce dont nous avons réellement besoin. Et cette volonté d'accepter ce que Dieu choisit pour nos vies doit se refléter dans nos prières.
Vous avez bien cerné les choses, Yann. Dans ce texte lu, deux marques de confiance en Dieu se dégagent, et ces marques de confiance doivent se refléter dans nos prières. D'abord, nous pouvons nous exprimer librement devant Dieu. Nous pouvons tout lui dire, tout lui demander. Ensuite, nous devons avoir la foi que Dieu, notre bon Père Céleste, nous répondra selon nos véritables intérêts et sa volonté. Tout bon père désire préparer ses enfants à l'âge adulte. Il désire les aider à croître en maturité. Cette perspective peut influencer les réponses données aux requêtes de ses enfants. Il en est de même avec Dieu. Il désire nous faire progresser vers une maturité de foi et nous aider dans notre marche chrétienne. Ce qu'il désire voir fructifier dans nos vies ne correspond pas forcément à nos souhaits les plus profonds. Sachons néanmoins qu'en toute chose, Dieu est digne de confiance.
Il est intéressant de noter qu'à la fin du texte lu par notre lectrice, Jésus déclare que Dieu n'hésitera pas à donner l'Esprit Saint à celui qui le lui demande.
Oui, tout bon père souhaite donner le meilleur à ses enfants. Ici, nous apprenons que ce que Dieu voudrait nous donner de meilleur est le Saint-Esprit. Si vous ne savez pas quoi demander à Dieu, commencez par lui demander son Esprit et vous pouvez être sûr qu'il vous l'accordera.
Mais en quoi l'Esprit est-il si important ?
L'Esprit de Dieu nous aide à comprendre la parole du Seigneur. Il nous aide à comprendre la Bible et à obéir à Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à progresser dans l'œuvre que Jésus désire accomplir dans nos vies, c'est-à-dire qu'il nous aide à grandir vers une foi mature, il nous aide à ressembler davantage à Jésus-Christ.
La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série des méditations bibliques. Ce titre s'inspire d'un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Que voici.
Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité.
Notre invité Yuva est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos méditations. Bonjour Yuva.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Relisons pour commencer le début de l'évangile de Jean. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
La dernière fois, nous avons appris que celui qui est la parole a participé à la création de toutes choses.
Oui, il est intéressant de noter que dans le récit de la création trouvé dans Genèse chapitre 1, chaque acte de création est précédé par la phrase « Dieu dit ». Par exemple, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Toutes les fois que Dieu ordonne quelque chose, sa parole seule suffit pour créer cette chose. Donc la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. Elle réalise ses désirs comme ses desseins.
Cela dépasse l'imagination de penser qu'il suffit à Dieu de dire un mot pour que, tout d'un coup, des multitudes d'étoiles apparaissent dans les cieux.
C'est exact. Nos paroles humaines accomplissent si peu en comparaison. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant un tel Dieu. Comme nous l'avons dit la dernière fois, chaque étoile témoigne de la puissance et de la gloire de Dieu.
Et pourtant, selon l'apôtre Jean, cette même parole de Dieu, celle qui a tout créé, est devenu homme dans la personne de Jésus-Christ.
Oui, et nous constatons que durant tout son ministère, Jésus a prouvé qu'il était réellement la parole de Dieu, car il lui suffisait à lui aussi de dire un mot pour que la chose s'accomplisse.
Pouvez-vous nous donner des exemples ?
Bien sûr. À l'occasion de la fête organisée lors d'un mariage à Cana, Jésus a changé de l'eau en vin. Plus tard, pour nourrir une foule affamée, Jésus a multiplié des pains et des poissons. Ces interventions sont des actes de création et à chaque fois, Jésus les a accomplis par sa parole seule. Pensez aussi à toutes les occasions où Jésus a guéri des personnes malades ou handicapées. Une fois de plus, il lui suffisait de prononcer une parole et la guérison se produisait.
Nous savons que Jésus a accompli beaucoup de miracles, mais dans quel but les faisait-il ?
Très brièvement, je pense à trois raisons. D'abord, pour dévoiler sa gloire, la gloire du Dieu créateur, qui en Jésus-Christ est devenu Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ensuite, pour dévoiler la grâce de Dieu, pour révéler un Dieu de grâce qui désire reconstruire des vies là où le péché a tout gâché. Enfin, ces signes miraculeux servent à prouver que Jésus est digne de notre foi. Il est digne de notre confiance.
Nous remercions Jean-Marc et Yuva pour leur contribution enrichissante. Nous espérons aussi vous retrouver bientôt pour découvrir davantage l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.